Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro avec le père Alain Marchadour, bibliste.
Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors tu es roi ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. » Nous connaissons bien ces paroles énigmatiques rapportées dans l'évangile de Jean au moment où Jésus comparaît devant Pilate. Ce dialogue qui marque le sommet de sa passion est l'aboutissement de la révélation progressive de sa messianité et de sa royauté. Mais de quelle royauté s'agit-il ? Depuis le début de son évangile, Jean a fait un important travail d'écriture autour des significations de ce titre de roi. Au fil du récit, la royauté de Jésus, si différente de toutes les autres, est, selon les circonstances, annoncée, assumée, écartée, proclamée, révélée. Elle suscite des adhésions et des actes de foi, mais aussi des malentendus, des réticences, des refus, et beaucoup d'interrogations qui sont peut-être les nôtres aujourd'hui. Nous allons donc consacrer deux émissions à refaire ce parcours narratif du dévoilement de la royauté de Jésus. Nous en relirons les passages les plus significatifs dans la nouvelle traduction liturgique de 2013, et vous nous aiderez, Père Alain, à les décrypter et à en goûter la saveur et la profondeur évangélique. Le premier passage se situe dès le chapitre 1, au verset 44 à 51. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Pouvez-vous nous rappeler, Père Alain, qui est ce Nathanaël qui n'apparaît que dans l'évangile de Jean ?
Oui, Nathanaël, c'est une figure assez étrange, dans la mesure où elle semble ne pas avoir beaucoup d'importance, mais la place qu'elle occupe au début et à la fin de l'évangile de Jean laisse entendre au contraire qu'elle pourrait avoir une signification beaucoup plus forte, même si elle n'est pas très présente. Donc, on ne sait pas très bien qui c'est. On sait qu'il était là, on sait qu'il a eu un rôle important face à Jésus, sur lequel nous allons revenir, et qu'il s'est retrouvé à la fin de l'évangile dans la nomination de tous ceux qui sont là quand l'Église prend son ampleur.
On l'a parfois peut-être confondu avec Barthélemy aussi, non ?
Oui, mais tout ça, ce sont des hypothèses qui n'ont pas beaucoup d'appui. On ne sait rien de cette possibilité, donc c'est des tentatives un peu vaines. Non, je crois qu'il faut garder ce côté secret et en même temps disponible de cette figure assez étonnante, effectivement. Dans le peu de place qu'elle a, elle joue un rôle important.
Ce qui est le plus étonnant, effectivement, quand on l'écoute, c'est cette capacité qu'il a d'affirmer que Jésus est le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Que pouvait-il mettre derrière ces titres ?
C'est-à-dire que là, nous sommes déjà dans le thème qui va nous occuper maintenant, c'est ce thème de la royauté de Jésus. C'est un thème qu'on va traverser à travers les étapes, on pourrait dire narratives. Jean, contrairement à ce que parfois certains pensent, Jean est un évangile assez narratif à travers des figures et en particulier à travers la thématique de la royauté. Il se trouve que Nathanaël rencontre Jésus et il y a une sorte de communion parfaite entre ces deux personnages. C'est-à-dire que d'un côté, quand Jésus le voit venir à distance, il dit de lui, celui-ci est un Israélite sans malice, c'est-à-dire, façon de dire, c'est véritablement ce pour lequel je suis venu, c'est-à-dire ce que je voudrais convertir. C'est un bon Israélite, parfait, sans malice. Et d'un autre côté, lui-même, quand il arrive, alors qu'il a été un peu dubitatif au début, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth ? Il dit « Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël ». C'est-à-dire, on a là une sorte d'harmonie extraordinaire entre celui qui confesse la royauté et celui qui est pensé comme étant le disciple idéal. C'est-à-dire comme si, au début de son évangile, Jean nous disait à l'avance, au fond, voilà vers quoi nous allons aller, voilà ce que sera, au terme du voyage, la vraie royauté de Jésus et le vrai disciple de Jésus. Donc c'est un texte fort, un texte important. Et dernier chapitre de Saint Jean, chapitre 21, qui y a-t-il parmi les sept disciples qui sont là pour faire démarrer l'Église ? Il y a Nathanaël. C'est le seul endroit où il est nommé une deuxième fois, mais c'est significatif. Alors, je pense avec d'autres, hein, tout le monde n'a pas la même option que je fais, mais quelques exégètes ont pensé que sa discrétion avait un sens fort sur la vraie royauté de Jésus.
Et alors, le terme « fils de Dieu », qu'est-ce qu'il pouvait signifier dans le contexte ?
C'est-à-dire, le thème « fils de Dieu », il peut y avoir un sens faible, c'est-à-dire le roi dans l'histoire d'Israël était fils de Dieu, par excellence. Et donc, lui, il le qualifie comme roi, fils de Dieu. Mais bien sûr, nous, croyants, nous y mettons davantage. C'est-à-dire que déjà, nous, parce que nous sommes des lecteurs d'aujourd'hui, qui avons été travaillés par la foi, nous prenons le mot dans un sens beaucoup plus plein que pouvait le faire, par exemple, Nathanaël.
Mais est-ce que Jean pouvait déjà être dans une réflexion trinitaire ?
Non, mais ça, ce sont des mots qui n'ont pas de sens pour Jean. C'est-à-dire que là, vous êtes dans la théologie du Moyen-Âge, déjà. Or, nous ne sommes pas encore dans cette dynamique. Hein. Tout ce qui est le vocabulaire de la Trinité n'existe pas dans la Bible, comme vous savez. Donc, on ne va pas la trouver, bien sûr, dans la Bible.
Alors, il y a ensuite une deuxième rencontre très importante que fait Jésus, qui est celle de Nicodème, qui est racontée donc, au chapitre 3, versets 3 et 5. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ?» Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Nicodème est donc un notable juif qui faisait partie du groupe des pharisiens. Pourquoi vient-il rencontrer Jésus discrètement pendant la nuit, Père Alain ?
Alors c'est vous qui avez rajouté discrètement, parce que rien ne dit qu'il est venu dans la nuit pour être discret. Je pense que, même si le mot « nuit » a beaucoup fait travailler les exégètes, c'est vrai, il y a eu des lectures un peu contradictoires sur cette venue de nuit. Moi, je pense, avec beaucoup d'exégètes, et surtout selon la tradition juive, que Nicodème est venu de nuit parce que c'était la tradition, le monde juif, que les maîtres se rencontraient et dialoguaient pendant la nuit. C'était le temps favorable pour le débat. Donc, il y a quelque chose d'important. Et peut-être, alors, davantage, ça c'est un peu mon opinion, peut-être que je ne suis pas le seul à la partager, mais je suis convaincu qu'il vient parce qu'il a un mandat. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait dire ça ? Alors, vous allez peut-être trouver que je romance un peu l'Évangile. Je suis convaincu que le Sanhédrin, les autorités juives, les pharisiens, ont bien sûr entendu parler de Jésus quand il a développé sa mission en Galilée. Et que très vite, entre eux, s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire quand il va arriver à Jérusalem ? Car inévitablement, un prophète doit monter à Jérusalem. Donc, ils vont s'y préparer et j'imagine une rencontre entre eux en disant comment on va l'accueillir. Et ils vont décider à ce moment-là, un peu comme un syndicat, ils vont choisir l'un d'entre eux, qui est Nicodème, en lui disant, sans doute parce qu'il avait une certaine autorité, voilà, tu vas aller le voir et en notre nom, tu lui diras un certain nombre de choses, tu lui diras l'accord sur lequel on est prêt à l'accepter, à le laisser travailler, mais à condition qu'il respecte. Et ça voudrait dire que c'est ça que vient faire Nicodème au départ. Ça pourrait expliquer son trouble après. Il vient parce qu'il a une mission. Il vient pas en son nom. Vous avez remarqué certainement, comme vous êtes assez subtil dans les Écritures, qu'il dit « Nous savons que tu viens de la part de Dieu ». Il dit pas « Je sais ». Nous. Et ce « nous », c'est sans doute le Sanhédrin. Donc, on vient te proposer un accord. Si tu es d'accord, bien, on ne mettra pas des bâtons dans les roues, tu pourras développer ta mission, mais à condition que tu restes dans cet accord-là.
Donc, vous dites qu'il y a une certaine bienveillance, ils ne sont pas encore dans une méfiance vis-à-vis de Jésus.
Non, je pense qu'ils ont été impressionnés certainement à distance par ce qui se passait là-bas, et en se disant, s'il vient à Jérusalem, il va faire un tabac. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de le contrôler puis de garder notre dignité dans tout ça ? Et donc, il se donne un accord minimal, on pourrait dire, et ce qui est assez logique, vous l'avez vu, nous savons que tu viens de la part de Dieu, c'est-à-dire ce que tu fais, c'est inspiré par Dieu. Donc, ils ne sont pas négatifs à ce moment-là. Mais ce n'est qu'après, bien sûr, que ça va se dégrader. Et Nicodème, il est en position d'un interlocuteur neutre. Ce n'est pas lui qui parle, il apporte au fond, comme le syndicaliste, il apporte ce qu'il a à livrer, ce qui lui a été dit, ni plus ni moins.
Alors il est un peu interloqué, ça commence comme ça, puisque Jésus a cette affirmation, il faut renaître d'en haut pour voir le royaume de Dieu, et Nicodème, il est complètement perplexe et il se demande ce que ça peut bien vouloir dire.
Oui, il est interloqué parce que Jésus ne rentre pas dans son jeu, c'est-à-dire là où il pensait que Jésus allait adhérer au fond à sa proposition, tout à coup Jésus change de registre, et déjà le maître qui parle et qui dit « il faut renaître ». Alors, tout à coup, cet homme qui a une connaissance énorme, qui a étudié tous les textes bibliques, qui est riche de tout, voilà qu'on lui demande de lâcher tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a appris, et de repartir à zéro, de renaître, c'est fort le mot. Hein. Vous avez remarqué que c'est un mot qu'on ne trouve que dans Saint Jean. Dans les synoptiques, on dit qu'il faut devenir comme des enfants. Mais ici, c'est plus radical, il faut renaître. Et tout à coup, les règles du jeu ne sont plus les mêmes, et Nicodème, il est ébranlé. Et ça reste une énigme un peu en se disant, et ça divise un peu même les exégètes quand ils commentent. Qu'a-t-il cru ? Qu'a-t-il accepter, comment a-t-il entendu ce message de Jésus ? Ce qui est sûr, puisqu'on le retrouve à d'autres reprises dans l'Évangile, comme vous le savez, c'est qu'il est fasciné par Jésus. Mais fait-il le saut de renaître comme Jésus lui demande, c'est-à-dire d'entrer dans le royaume, parce que là, c'est notre thème, c'est la royauté de Jésus. C'est, on peut dire en passant que dans Jean, on ne parle pas du royaume habituellement, on parle du roi. Ici, c'est le seul passage où évoquer le royaume, alors que dans les synoptiques, les paraboles du royaume sont fréquentes. Et donc, il y a un moment important là qui se joue, quelque chose qui est très beau aussi. On pourrait dire, on a vu Nathanaël, mais ici, cet homme, il va suivre Jésus par deux fois, on le retrouve, comme s'il était fasciné, Et on ne saura jamais, au fond, pleinement, s'il a adhéré à la fin au message de Jésus. Il y a une espèce d'ouverture, là, qui est faite, mais c'est évidemment un passage grandiose. Mais il retourne dans la nuit, il est venu dans la nuit, il repart dans la nuit. Et quand Jésus va dévoiler le mystère de la renaissance, hein, le Père et moi nous a envoyés pour que vous ayez la vie, il ne sera plus là.
Alors, l'événement suivant que nous avons relevé se situe juste après l'épisode où Jésus a nourri une grande foule en multipliant des pains et des poissons, au chapitre 6, versets 14-15. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde ». Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Comment expliquer cette réaction de Jésus qui ressemble à un refus ou à une fuite, Père Alain ?
Alors, peut-être qu'on peut, avant de déployer votre question, se dire que c'est un des rares passages où nous avons l'accord de les quatre évangiles. C'est-à-dire cette scène de la multiplication des pains, avec des nuances, bien sûr, où chacun va mettre sa marque, et rapporter. Et donc, c'est véritablement un moment important au plan historique. Hein. Nous sommes dans un tournant, on pourrait dire. Et Jean, mieux que les autres évangélistes, va construire ce message. Jésus, on est dans le thème du repas que nous avons évoqué quelquefois. Le thème du repas, Jésus nourrit la foule. Et il nourrit la foule de manière ample, au-delà même de ce qu'elle avait besoin, puisque on en repère 12 paniers. Donc, il y a quelque chose d'important. Et les gens, à ce moment-là, c'est là où on voit bien que Jésus vient, envoyé par Dieu, il a une mission. Il est celui qui vient nourrir les foules, et la foule se trompe au fond sur lui. On voit bien la thématique. Nicodème se trompe aussi un peu sur Jésus. Jésus, il veut bien l'accepter comme un grand juif, mais comme étant celui qui fait renaître, il n'est pas prêt, même s'il le suivra. Ici, les foules sont fascinées parce qu'elles sont nourries par lui, mais elles se trompent sur son identité et elles veulent le faire roi. C'est là qu'on voit qu'il y a un malentendu qui va persister, on peut dire, jusqu'à la croix, d'une certaine manière, parce que la royauté, c'est une réalité complexe, sur lequel, au fond, on reviendra, bien sûr, parce qu'il faudra le faire apparaître. Vous savez, les mots sont souvent piégés. Hein. En France, le mot « roi » n'a pas une signification grande aujourd'hui, puisqu'on a abandonné, nous, la royauté depuis longtemps, mais il a été gardé. Alors, on pourrait se poser la question, au fond, qu'est-ce qui fait qu'on a gardé quand même le mot « roi » ? Si on a le temps, je peux faire une petite ouverture sur ce sujet. Vous le savez comme moi que Israël n'a pas d'autre roi que Dieu. Dieu est le roi d'Israël depuis toujours. Hein. Et il s'est passé, il y a eu des intermédiaires qui avec Josué, avec les ceux qui l'ont conduit, le peuple. Mais à un moment donné, à l'époque de Samuel va être attristé parce que le peuple va venir le trouver en lui disant « Donne-nous un roi ». Comme les autres nations. Et Samuel est peiné de cela, d'abord pour lui-même, et quand Dieu vient l'interpeller, Dieu lui dit, ça n'est pas après toi qu'ils en ont, c'est après moi. Donc accepte la royauté, fais un roi. Ce sera Saül, comme vous le savez, David, avec toutes les péripéties, bien sûr, inévitables, le malentendu qu'il y aura autour de la royauté, et Jésus va assumer ce rôle. Mais ne l'assumera pas, bien sûr, comme Saül, comme David et comme tous les autres rois qui ont suivi. Et donc c'est un malentendu, finalement, qui va peser lourdement. Et c'est pour ça que Nathanaël est magnifique. Là. Il est dans la perfection dès le départ. Les autres ont plus de mal, ils veulent le faire roi. Lui, il ne veut pas être roi comme ça. Vous voyez, c'est un vrai roman qui commence et qui va déboucher sur la royauté, sur la croix.
Eh bien, nous poursuivrons ce roman la semaine prochaine, parce que nous sommes déjà au terme de cette première émission. J'ai annoncé qu'il y en aurait deux, mais je pense qu'il risque peut-être d'y en avoir trois, consacrés donc à ce thème de la royauté de Jésus dans l'évangile de Jean. Nous poursuivrons la lecture de ce magnifique récit dans la prochaine émission. Merci à vous, Père Alain Marchadour, pour nous avoir fait partager vos connaissances. Merci à Christophe Aubry qui assurait la réalisation. Nous voici au terme de la rediffusion de ce numéro de l'émission biblique selon les Écritures avec le Père Alain Marchadour, bibliste, qui nous a quittés le 3 mai dernier. Pour lui rendre hommage, Présence rediffuse l'intégrale des 44 émissions de 20 minutes du 29 juin au 4 septembre 2026, du lundi au vendredi. Rendez-vous donc au prochain numéro de Selon les Écritures. Chaque émission peut aussi être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Au revoir et à très bientôt sur les antennes de Présence.